et merci d'être à l'écoute de Galad. Au sommaire de notre édition, prévention tout d'abord, les gestes qui sauvent, démonstration dans l'après-midi du mercredi 10 juillet, place des Arts à Villefranche par les équipes de secourisme, l'antenne caladoise de la Fédération française de sauvetage et secourisme ainsi que la Croix-Rouge Tarare, les propos de ceux-ci dans cette édition. Et en conclusion, le VIH continue à représenter un problème de santé. Quelques rappels de la directrice de l'ALS, l'association de lutte contre le sida à Lyon, Valérie Bourdin. Galad, le journal. L'esturgeon européen, la grande alose, l'anguille européenne et le chat baudulaise en danger critique d'extinction. La loche léopard, la lamproie marine, l'omble chevalier ou encore l'apron du Rhône en danger, en situation de vulnérabilité. Au total, 15 des 80 espèces de poissons d'eau douce présentes en France métropolitaine, soit près d'une sur cinq, sont menacées de disparition. C'est ce que révèle la liste rouge publiée le 11 juillet dernier par le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature et le Muséum national d'histoire naturelle, en partenariat avec la Société française d'ichtyologie et l'Agence française pour la biodiversité. Par rapport à la précédente évaluation réalisée voilà 9 ans, le bilan s'est encore aggravé, puisque si l'on y ajoute 16 espèces classées comme quasi menacées, barbeau méridional, vairon basque, saumon atlantique, le pourcentage total d'espèces en péril est passé de 30% à 39%. La destruction et la dégradation des milieux naturels constituent les principales menaces, indiquent les auteurs dans un article du journal Le Monde de Pierre Le Hire. L'assèchement des zones humides et de la présence de digues sur les cours d'eau, le drainage agricole des prairies humides affectent les conditions de reproduction, tandis que l'extraction de granulats met à mal l'habitat des rivières. À cette pression s'ajoute la pollution des milieux d'eau douce, lacs ou rivières, notamment par les pesticides. Cette mauvaise qualité des écosystèmes aquatiques a pour effet de fragiliser les défenses immunitaires de certaines espèces, comme l'anguille européenne. La situation des poissons migrateurs, le cas de l'apron du Rhône, un poisson de la famille des perches, en est un bon exemple. Endémique du bassin rhodanien, où il était présent au début du XXe siècle sur 2200 km de cours d'eau, il a ensuite perdu 90% de son aire de répartition, du fait de la pollution et de la fragmentation de ses habitats par les barrages hydrauliques. Des actions de conservation et de réintroduction de juvéniles issus d'élevage ont permis d'améliorer sa situation. L'espèce passant de la catégorie « en danger critique » en danger. Toutefois, précisent les scientifiques, ces résultats restent très fragiles et la vigilance reste de mise. Prévention, tout d'abord dans cette édition. Les gestes qui sauvent, démonstration dans l'après-midi du mercredi 10 juillet, place des Arts à Villefranche par les équipes de secouristes, l'antenne caladoise de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, ainsi que la Croix-Rouge Tarare, comme nous l'expliquent les acteurs du secourisme.
Antonio Casero, je suis président de l'association de l'Amicale des secouristes de Villefranche et je fais partie de la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis formateur dans cette association.
Un événement un peu particulier, effectivement, aujourd'hui, Place des Arts. Hein.
Oui, c'est un événement particulier aujourd'hui parce que c'est un événement qui est basé sur les gestes qui sauvent, sur l'arrêt cardiaque, parce qu'en France, il y a à peu près 50 000 décès par an liés à l'arrêt cardiaque. Et on sait aujourd'hui qu'avec les statistiques, lorsqu'on met en place tout de suite donc un numéro d'urgence lorsqu'une personne est en arrêt, lorsqu'on pratique tout de suite un massage cardiaque et lorsqu'on met en place un défibrillateur, on passe de 4 à 40% de taux de survie. Donc pour nous, c'était essentiel de pouvoir présenter ça aux gens et qu'ils puissent intervenir lorsqu'il y a un arrêt cardiaque.
Donc on peut peut-être un peu présenter, parce que vous accompagnez également deux partenaires, il y a des ateliers, c'est bien ça hein ?
Donc il y a 3 ateliers au total, du moins 4 ateliers au total. Il y aura donc la Croix-Rouge qui sera en partenaire avec nous, un organisme qui vient venir nous présenter tout ce qui est défibrillateur, donc défibrillateur automatique. automatique et des vibrateurs semi-automatiques. Il y aura aussi l'Apart Fitness Club qui, eux, vont faire des démonstrations de Zumba et de Body Fitness toute l'après-midi. Et nous avons aussi en collaboration une personne qui va venir pour tout ce qui est diététique au niveau nutritionnel, donc pour expliquer aux gens comment se nourrir pour éviter tout ce qui est maladie cardiovasculaire.
Vous allez maintenant nous expliquer, peut-être pour être concret, effectivement, les premiers gestes, c'est possible
Tout simplement, les premiers gestes, lorsqu'on constate une personne qui est en arrêt cardiaque, donc qui est inconsciente et qui ne respire pas, la première chose à faire, c'est tout simplement d'appeler le 15 ou les pompiers, ou alors le 112 directement, ensuite de pratiquer le massage cardiaque et ensuite de défibriller si on a un défibrillateur qui est à proximité et d'attendre l'arrivée des secours, tout simplement. Tout au long de l'année aussi, nous contacter directement pour des informations sur des formations, donc il n'y a aucun problème par le biais soit de mon adresse mail directement. Alors les gens peuvent me contacter directement au 06 31 28 70 44, ce qui est mon numéro où là je peux expliquer aux gens pour tout ce qui est au niveau formation. Et sinon sur le site directement internet, via directement on va dire Facebook, sur la page ASV Villefranche.
Du massage cardiaque et de l'utilisation du défibrillateur, des gestes qui peuvent sauver des vies.
Lani Reynard, je suis vice-présidente de l'UL donc de Villefranche. Et donc nous on fait partie plus spécialement de l'équipe de Tarare. Donc l'UL de Villefranche, il y a donc Villefranche, il y a tout ce qui est du côté de Tarare et le nord du département Tizi. Voilà. Et donc là, de la sécurité, nous a donc demandé d'intervenir aujourd'hui pour faire le massage cardiaque, l'utilisation du défibrillateur.
D'accord.
Et voilà.
Très bien. Donc on peut rappeler peut-être effectivement que le défibrillateur, c'est un outil qui est dans les services en règle générale public, c'est bien cela ?
Oui. Alors, le défibrillateur, faire du massage cardiaque, c'est très bien. Il faut toujours commencer par faire le massage cardiaque. On est bien d'accord, on fait du massage cardiaque sur une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. Donc, on fait tout de suite du massage cardiaque. Et on envoie quelqu'un, si on n'est pas seul, chercher le défibrillateur. Le défibrillateur, c'est un outil merveilleux qui est capable d'enregistrer les mouvements du cœur, le rythme cardiaque et d'envoyer un choc si nécessaire. Donc c'est très important de savoir, quand on habite dans une ville, de savoir où sont localisés les défibrillateurs. Il faut savoir que sur Internet, il y a un site maintenant aussi où on peut connaître où sont situés les défibrillateurs.
Tout le monde peut être formé, effectivement ?
Tout le monde peut être formé parce que dès l'instant où vous avez le défibrillateur, vous le mettez, c'est comme une cafetière électrique, vous le mettez en route et c'est lui le patron. Et vous écoutez ce qu'il vous dit, vous faites ce qu'il vous dit, c'est lui qui sait. Et il passe jamais, il va pas vite, il vous laisse faire les gestes, il attend que vous ayez fait les gestes pour passer à l'étape suivante.
D'accord.
Donc c'est très important et tout le monde peut utiliser un défibrillateur.
Et surtout, ça sauve des vies, bien évidemment.
Ça sauve des vies et parce qu'il est capable justement d'enregistrer le rythme cardiaque et d'envoyer un choc électrique pour faire soit réguler le cœur, soit le faire repartir éventuellement. Avec donc, je vais vous donner le nom de mes camarades, donc Raymond Chambaud, Jean-Claude Souzy, Pascal Sarteur.
C'était les acteurs du secourisme, l'antenne caladoise de la Fédération française du sauvetage et secourisme, ainsi que la Croix-Rouge de l'équipe de Tarare. Annoncée le 12 juin, la suppression totale de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour l'ensemble des foyers, quel que soit le montant de leurs revenus. Cette mesure représente la baisse la plus importante d'impôts des dernières décennies. Le gouvernement engage donc aujourd'hui la concertation avec les associations nationales d'élus sur les modalités de suppression de la taxe d'habitation et de refonte de la fiscalité locale qui seront inscrites au projet de loi finances pour 2020. La taxe d'habitation sur la résidence principale sera définitivement et intégralement supprimée à la fin de l'année 2022, comme le président de la République s'y était engagé. Cette suppression progressive qui bénéficiera à l'ensemble des Français sera présentée au Parlement dans le projet de loi de finances de l'année 2020. Cette réforme respectera de grands principes comme une diminution nette d'impôts pour les contribuables sans augmentation ou création d'impôts nouveaux par ailleurs, une compensation à l'euro près pour les collectivités locales par l'affectation de ressources dynamiques, transfert de parts d'imposition entre collectivités, attribution de parts d'un impôt national, garantissant un maintien des ressources des collectivités et une dynamique dans le temps. Une simplification de la fiscalité locale pour la rendre plus lisible et plus juste. 2022 sera donc la dernière année au cours de laquelle des Français auront à payer une taxe d'habitation sur leur résidence principale. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la majoration de la taxe d'habitation sur les logements vacants et la taxe sur les logements vacants seront maintenus sous la forme d'une taxation des logements non affectés à la résidence principale pour des montants strictement équivalents. C'était un communiqué de la préfecture du Rhône. Et pour conclure notre édition, le VIH continue à représenter un problème de santé majeur au niveau mondial. Les acteurs de la prévention invitent activement à riposter contre la propagation du VIH. Quelques rappels de la directrice de l'ALS, l'association de lutte contre le sida à Lyon, Valérie Bourdin. Elle est jointe par téléphone.
Oui, tout à fait. Le VIH reste d'actualité aujourd'hui, dans le sens où chaque année encore, on compte environ 6000 nouvelles contaminations en France. Il faut continuer à informer les différents publics, avoir des messages adaptés à ces différents publics. Et notre association, l'ALS, comme d'autres, eh bien, nous sommes effectivement chargés de ces messages de santé publique de façon à pouvoir inviter les personnes non seulement à s'informer, mais aussi à vérifier là où ils en sont avec leur statut sérologique.
Dépistage précoce et bien évidemment mise sous traitement.
Oui, dépistage précoce, bien sûr, parce qu'en fait, le dépistage, c'est la seule façon de savoir si on est concerné, si on est atteint par le virus ou pas. Il n'y a pas d'autre moyen que le dépistage. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement de se faire dépister et de se faire dépister régulièrement s'il nous arrive d'avoir des comportements à risque. Et effectivement, le dépistage va permettre, en cas de séropositivité, une mise sous traitement rapide, dans le sens où on sait maintenant depuis plusieurs années qu'une personne sous traitement, qui a un traitement bien en place, bien équilibré, et qui n'a pas d'autres infections sexuellement transmissibles, eh bien, n'est plus contaminante.
Mmh. On parle d'antirétroviraux de seconde et troisième génération. De quoi parle-t-on ?
Eh bien, en fait, quand on parle de génération en termes de traitement, et en fait, il s'agit de l'évolution des traitements. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher à améliorer la qualité de vie des personnes sous traitement. Donc, on va chercher à rendre les traitements de mieux en mieux tolérer, et on va bien évidemment chercher aussi à réduire les effets secondaires de ces traitements, puisqu'on est sur des traitements lourds, hein, comme la plupart des grosses pathologies, et donc on va chercher à réduire les effets de ces traitements sur l'organisme, dans le sens où ces antirétroviraux, eh bien, ils entraînent une altération, hein, de certains organes. Donc, l'intérêt de continuer à chercher à travailler sur des nouvelles molécules, c'est de façon à réduire tous ces effets secondaires et les éventuelles intolérances vécues par les personnes qui vivent avec le VIH.
Oui, l'intolérance, également la résistance, hein, c'est bien ça.
Alors oui, voilà, tolérance et résistance, bien sûr, on retrouve ça dans de nombreux traitements, hein, et notamment avec les virus qui mutent beaucoup, comme c'est le cas pour le VIH. Effectivement, il peut à un moment donné y avoir de l'intolérance ou de la résistance à une molécule, et auquel cas, ces nouvelles générations de médicaments, eh bien, vont pouvoir permettre justement de lever ces obstacles à une bonne observance et à une bonne efficacité des traitements.
C'était Valérie Bourdin, directrice de l'association de lutte contre le sida à Lyon. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.